Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Poursuite de la tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken est au Nigeria aujourd'hui. Conflit en Éthiopie, les émissaires africains et américains tentent de mettre fin à la guerre. Nouvelle violence au Soudan après le jour le plus sanglant depuis le putsch. Le président américain Joe Biden reçoit les leaders du Canada et du Mexique sur fond de tensions migratoires et commerciales. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Après le Kenya, hier mercredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit sa tournée au Nigeria. Il entend porter les priorités de l'administration Biden, promouvoir la démocratie, la lutte contre le changement climatique et contre la pandémie de Covid-19. Le point avec Eric Manirakiza.
Avant sa tournée, Anthony Blinken a annulé une décision de Donald Trump. Il a retiré le Nigeria d'une liste noire américaine des nations qui violent les religions. Première économie d'Afrique subsaharienne, le Nigeria est un acteur essentiel sur le continent pour les administrations américaines qui ont toutes courtisé les dirigeants nigériens depuis le rétablissement d'un pouvoir civil en 1999. Mais depuis un an, le discours américain s'est fait plus ferme, notamment face à la sanglante répression d'un mouvement de contestation contre les violences policières. Le Congrès a retardé la vente au Nigeria de 12 hélicoptères d'attaque Cobra face aux interrogations sur l'engagement de l'armée à protéger les civils dans son combat contre Boko Haram. Mais le Nigeria a récemment commencé à recevoir une livraison séparée d'avions de guerre Super Tucano. Des responsables du département d'État ont déclaré que Blinken va aborder la question des droits de l'homme et rencontrer des groupes de la société civile. Il se rendra ensuite au Sénégal.
Les autorités américaines ont annoncé aujourd'hui la levée des sanctions contre le Burundi qui était en place depuis 2015. Le gouvernement précise que la levée de ces sanctions, notamment économiques, est due à la poursuite des réformes dans de multiples secteurs par le président Ndayishimiye. Au Mali, le premier ministre de transition, Choguel Kokala Maïga, et la quasi-totalité de son gouvernement figurent parmi quelques 150 personnalités visées par des sanctions individuelles infligées par la CDAO. Leurs avoirs financiers sont gelés et ils ne peuvent voyager au sein de la CDAO. En revanche, le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de la junte au pouvoir, et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ne figurent pas sur la liste. La France a neutralisé une vingtaine de djihadistes au Niger, a indiqué l'état-major français des armées. Une opération impliquant des avions de chasse, des drones Reaper et des hélicoptères de combat Tigre a permis d'engager le combat contre un groupe d'une quarantaine de djihadistes dans la zone dite des trois frontières. La frappe a eu lieu à 1,5 km de la frontière malienne. Des émissaires de l'Union africaine et des États-Unis sont retournés en Éthiopie pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu. Les précisions de John Lyndon.
L'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, envoyé spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, et son homologue américain Jeffrey Feldman sont arrivés à Addis Abeba. Les deux hommes se sont déjà rendus en Éthiopie ce mois-ci pour tenter de faciliter un accord entre le gouvernement du premier ministre Abiy Ahmed et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. L'ancien président nigérian s'est rendu à deux reprises à Mekele, la capitale du Tigré, pour rencontrer des dirigeants du TPLF, un signe de progrès après de multiples déclarations dans lesquelles le TPLF a rejeté l'Union africaine, dont le siège est à Addis Abeba, comme partial et favorable au gouvernement d'Abiy Ahmed. Lors d'une visite au Kenya, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réitéré l'appel de Washington pour une cessation des hostilités. Le Kenya a joué un rôle actif dans les efforts de médiation. Sa ministre des Affaires étrangères, Rachel Omamo, a assuré hier qu'un cessez-le-feu est encore possible.
La police kényane a annoncé avoir capturé 3 dangereux criminels qui s'étaient évadés d'une prison de haute sécurité, dont un djihadiste lié à l'attaque de l'université de Garissa, ayant fait 148 morts en 2015. Les détenus ont été arrêtés à environ 200 km à l'est de Nairobi, après s'être échappés lundi de la prison de haute sécurité de Kamiti, dans la banlieue de la capitale. Les autorités avaient lancé une chasse à l'homme dans tout le pays pour retrouver le trio dont l'évasion avait provoqué un scandale qui a coûté son poste au chef des services pénitentiaires kényans. Au Soudan, les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes sur des manifestants dans la banlieue nord de Khartoum. Hier, au moins 11 personnes ont été tuées. Nathalie Barge.
Aujourd'hui, les manifestants ont répondu aux grenades lacrymogènes par des jets de pierre. Les téléphones marchent de nouveau et le pouvoir militaire a rétabli la connexion Internet, coupée depuis le coup d'État du 25 octobre. Une opération graduelle, selon l'agence de presse officielle Sunna. Aussitôt, des militants ont appelé les Soudanais à mettre en ligne des vidéos et des informations sur les manifestations de la veille, les plus meurtrières depuis le putsch. Hier, au moins 11 des 15 manifestants tués sont tombés sous les balles des forces de sécurité qui visaient, selon un syndicat de médecins pro-démocratie, la tête, le cou ou le torse. La répression a fait au moins 39 morts en moins d'un mois.
Par ailleurs, les États-Unis se sont dit convaincus que le nouveau pouvoir militaire soudanais veut trouver une issue à la crise, malgré la répression sanglante. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a demandé au Soudan d'autoriser les manifestations pacifiques. En Libye, l'ancien ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, a présenté officiellement sa candidature à l'élection présidentielle prévue en décembre. Il y a désormais 15 candidats officiellement enregistrés pour l'élection du 24 décembre et parmi lesquels figurent notamment Saif el-Islam Kadhafi, fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi, et Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden reçoit ce jeudi à Washington le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Les trois vont aborder plusieurs sujets dont le commerce et l'immigration. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les États-Unis, le Mexique et le Canada vont réaffirmer leurs liens, mais aussi tracer un nouveau chemin de coopération dans divers domaines, déclare la Maison-Blanche. Les trois partenaires entendent se pencher sur la lutte contre la pandémie, les questions de compétitivité économique et la réaction face au changement climatique. Sur le plan commercial, Joe Biden estime que les plans d'investissement qu'il vient de faire voter doivent bénéficier en priorité aux produits et aux salariés américains. De quoi inquiéter le Mexique et le Canada qui dépendent des débouchés américains, surtout dans le secteur automobile. A contrario, Washington reproche à Mexico de privilégier ses entreprises dans le secteur de l'énergie et à Ottawa de freiner les achats de produits laitiers américains. Sur l'immigration, depuis l'investiture de Joe Biden, plus de 1,3 million d'étrangers ont été interpellés à la frontière avec le Mexique, un niveau inédit depuis 20 ans selon des chiffres de septembre. Biden a promis de traiter avec plus d'humanité les migrants.
Le gouvernement américain a commandé au laboratoire Pfizer 10 millions de traitements de sa pilule anti-Covid pour 5,29 milliards de dollars, sous réserve que le médicament reçoive le feu vert des autorités sanitaires. Le président russe Vladimir Poutine a accusé les pays occidentaux d'exacerber les tensions en Ukraine et en mer Noire, dénonçant en outre des vols de bombardiers stratégiques près des frontières russes. Il a par ailleurs reproché aux Occidentaux de considérer de façon superficielle les mises en garde de Moscou sur le franchissement de lignes rouges. L'OTAN, Washington, Paris et Berlin ont dénoncé ces derniers jours un renforcement de troupes russes aux frontières orientales de l'Ukraine, où une guerre avec des séparatistes pro-russes est en cours depuis 2014. D'autre part, la Russie a affirmé avoir effectué avec succès un tir d'essai d'un missile de croisière hypersonique Zircon, une arme d'un genre nouveau que Moscou juge invincible et qui inquiète les Occidentaux. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
RDC, les parlementaires qui ont enquêté sur l'exploitation minière illégale par des sociétés étrangères dans le sud de Kivu préconisent des mesures drastiques pour remettre de l'ordre dans le secteur. Ils demandent à l'exécutif d'infliger et exiger des amendes aux sociétés concernées ou encore, pour lutter contre les trafics et déclarations frauduleuses, de créer des centres de négoce pour les transactions aurifères dans les zones d'exploitation artisanale de Mwinga. Il suggère aussi la suspension de toute activité minière dans la province, l'identification et le retrait, le cas échéant, des droits aux sociétés et coopératives irrégulières. L'ABAD veut aider la Tanzanie à renforcer son domaine énergétique grâce à la remise en état des anciennes lignes de transport d'électricité. La part des énergies renouvelables doit également progresser au niveau national à 3495 gigawattheures en 2025 contre 2615 gigawattheures en 2020. Cela sera possible grâce à la construction de systèmes de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, notamment l'hydroélectricité, la géothermie, le solaire et l'éolien. Terminons par le Zimbabwe qui ne recevra pas de soutien budgétaire du FMI en raison de sa dette insoutenable. Un accord avec le fonds exigerait un engagement clair vers une restructuration complète de la dette extérieure du Zimbabwe, y compris l'apurement des arriérés et l'obtention de garanties de financement de la part des créanciers, a déclaré le FMI.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'ancien international camerounais Samuel Eto'o-Fils a déposé hier à Yaoundé sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football, assurant qu'il serait le prochain président malgré les tricheries, selon ses propres termes. S'adressant au dirigeant actuel de la FECAFOOT, l'ancien attaquant vedette du Barça prévient.
Qu'il sache si l'un de mes délégués, l'un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai ici avec toute cette foule qui me suit et même celle des autres régions pour les déloger.
L'ex-buteur de 40 ans a assuré que l'équipe sortante lui a proposé le poste de vice-président, qu'il a refusé.
Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition de premier vice-président. Je serai le prochain président de la fédération, malgré toutes les tricheries, parce que nous sommes passés, Chirindo, vous le savez, à 115, 111 délégués, à 76.
Samuel Eto'o a annoncé son intention de se porter candidat le 22 septembre, estimant qu'il était temps de lancer le chantier de la reconstruction du football camerounais. Il a déclaré que le président actuel de la fédération a lamentablement échoué, selon ses propres termes. En 2018, Eto'o a pourtant soutenu la candidature de Seydou Mbombo Ndjoya, mais il explique aujourd'hui sa déception. Pour les supporters de Samuel Eto'o, nul doute qu'il remportera cette élection à la présidence de la FECAFOOT. Écoutons quelques-uns d'entre eux.
Nous sommes confiants que Samuel Eto'o-Fils peut gagner cette élection. Au départ de sa capacité technique déjà et le professionnalisme qu'il a su dans le football, vraiment lui donne tous ses profils de gagner.
Cette candidature d'Eto'o-Fils est populaire, certes, mais ce n'est pas la population qui vote. Nous savons tous que ce sont les délégués qui vont voter. Mais je crois qu'au niveau des délégués aussi, il va pouvoir gagner des voix. Il a ses chances, il a de fortes chances d'ailleurs. C'est quand même le Pichichi. Donc il peut gagner, mais c'est la fin qui justifiera les moyens.
L'élection du nouveau président de la FECAFOOT est prévue pour le mois de décembre. En Mauritanie, Didier Gomes Darussa est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football. Le technicien français de 52 ans a entraîné plusieurs clubs africains depuis le début des années 2010, dont le Coton Sport de Garoua au Cameroun, le Oroya AC en Guinée, Ismaili en Égypte ou encore El Merrekh au Soudan. Il succède à un autre technicien français, Corentin Martins, remercié en octobre après l'élimination de la Mauritanie en match de qualification au Mondial 2022. L'équipe de Mauritanie va disputer sa deuxième phase finale de Cannes d'affilée qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Les Mourabitounes sont dans le groupe F avec la Gambie, la Tunisie et le Mali.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé aujourd'hui au Nigeria dans le cadre d'un voyage dans trois pays dont le Kenya et le Sénégal. Dans son agenda, M. Blinken doit discuter de la pandémie de Covid-19, du changement climatique, de la revitalisation des démocraties et des questions de sécurité. En amont de sa visite, des experts nigérians s'expriment sur ces questions et leurs attentes, comme le rapport Timothy Obiezu depuis Abuja. Le récit avec Eric Manirakiza.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va rencontrer à Abuja le président Muhammadu Buhari et d'autres responsables du gouvernement, dont le vice-président et le ministre des Affaires étrangères. Ils vont discuter de la coopération en matière de sécurité sanitaire mondiale, de l'élargissement de l'accès à l'énergie et de la croissance économique, ainsi que de la revitalisation de la démocratie, selon un communiqué du département d'État. Rotimi Olawale, cofondateur de Youth Hub Africa, estime que la visite de M. Blinken arrive à point nommé, d'autant que de nombreux pays africains, dont le Nigeria, n'ont pas atteint les objectifs fixés par l'OMS en matière de vaccination de la population.
C'est l'occasion de renforcer les liens avec le Nigeria. Alors que le monde continue de s'ouvrir, l'Afrique est à la traîne pour ce qui est de l'accès aux vaccins et j'espère que ce point va figurer en tête de l'ordre du jour, de même que les questions de sécurité et le soutien visant à garantir que le rétrécissement de l'espace civil, non seulement au Nigeria, mais dans toute la région, soit également abordé.
Le Nigeria est confronté à toute une série de menaces pour la sécurité, notamment l'insurrection de Boko Haram, les affrontements intercommunautaires et plus récemment, une vague d'enlèvements massifs dans les écoles. Le pays a été cité parmi les pays dont l'espace civil se rétrécit, ce qui a été aggravé par les brutalités policières contre des manifestations pacifiques l'année dernière. Pendant son séjour à Abuja, M. Blinken doit parler de la politique américaine vers l'Afrique en insistant sur la démocratie. Rien que cette année, le continent a connu 4 coups d'État militaires, menaçant des décennies de progrès selon M. Olawale Rotimi, cofondateur de Youth Hub Africa.
Il y a aussi des défis démocratiques à travers l'Afrique de l'Ouest, aussi à travers le continent où, au cours des 2 derniers mois, nous avons vu un certain nombre de coups d'État au Tchad, en Guinée, au Soudan et dans plusieurs autres pays où il y a eu un changement de démocratie. Il est important que le Nigeria joue un rôle de stabilisation à travers le continent, que cela soit également une priorité de l'agenda.
Le président Joe Biden a pris ses fonctions en janvier dans le but de renforcer les liens avec l'Afrique. Peu après son investiture, M. Biden a signé un décret levant les interdictions de voyager imposées par l'administration Trump à quelques pays musulmans, dont le Nigeria. Cependant, le sénateur Iogebu estime que les améliorations de la politique africaine sous l'administration Biden ont été lentes.
Yes, there was an initial attempt at the beginning of Biden administration to show that.
Oui, il y a eu une première tentative au début de l'administration Biden pour montrer que la relation États-Unis-Afrique serait différente. De nombreux décideurs politiques en Afrique doivent encore comprendre la trajectoire de l'administration Biden en ce qui concerne la politique américaine. Une grande partie de cette politique est entourée de secrets.
Ces experts espèrent que les projets de l'administration Biden concernant l'Afrique seront beaucoup plus clairs au moment où M. Blinken va terminer sa visite.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Gabon, les centrales syndicales des agents publics de l'État sont en colère. Elles revendiquent le paiement des services rendus pour les retraités et la régularisation des situations administratives des jeunes diplômés en attente de postes budgétaires. Si l'on est encore loin de la paralysie des services publics, la situation actuelle résulte néanmoins d'une mauvaise gestion des carrières à la fonction publique, d'après les partenaires sociaux. Le point à Libreville avec notre correspondant Ismaël Ombiangze.
Face au portail de la fonction publique, les grévistes tapent des pieds, sifflent ou chantent. À l'unisson, les centrales syndicales d'enseignants et celles d'autres agents publics de l'État ont choisi de faire plier le gouvernement sur plusieurs points de leur cahier de charges.
Tout le monde va à la retraite sans les services rendus. Alors qu'il y a le texte dans le statut général de la fonction publique qui donne droit des services rendus. Que ce soit les militaires, que ce soit les policiers, que ce soit tous les agents, on a droit aux services rendus.
Fridolin Vemessa, secrétaire général du Sénat.
L'arrêté qui doit être signé par le ministre des Affaires publiques n'est pas toujours disponible. Nous avons également, dans le cadre des revendications, nous avons posé le problème des régulations des situations administratives. Seulement 1150 situations administratives ont été régularisées, ce qui correspond à 13% du taux de réalisation. Bien en deçà des espérances des enseignants.
Dans un vaste mouvement d'ensemble, la machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants est dans les rangs. Il porte le combat du versement des rappels soldes et des reclassements pour les jeunes diplômés de l'administration publique. Pierre Kmita, président du mouvement.
La carrière des agents publics est bloquée. Bloquée. Le recrutement, bloqué. Qui doit faire la relève de notre administration demain? Ce sont les jeunes qui sont actuellement. Pourquoi recruter certains et pourquoi pas d'autres?
Des revendications en étude ou en voie d'être satisfaites, selon Madeleine Baird, la ministre gabonaise de la fonction publique.
Nous avons bien le fait, les présalaires, les sorties écoles. Et il se trouve que la plupart des présalaires et les sorties écoles se trouvent dans certains départements ministériels. Donc le fait de les prendre en compte ne traduit pas une inégalité. Cela traduit tout simplement le fait qu'ils sont dans la liste du cadrage budgétaire. Tout ce que nous faisons actuellement avec le comité de pilotage, c'est le suivi du plan d'action 2020-2021 qui a été la conclusion du forum de la fonction publique. Et nous avons le point des retraités qui est quand même pour même séance. Je voulais simplement les rassurer sur le fait que c'est pris en compte. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Mais comme j'ai dit aux partenaires sociaux, on annonce que ce qu'on est sûr de réaliser.
Malgré ces assurances, les centrales syndicales des agents publics gabonais maintiennent leur mouvement d'humeur avec l'espoir de faire plier les pouvoirs publics. Libreville, Ismaël Obianze pour VO Afrique.
Burkina Faso, plusieurs milliers de manifestants ont sillonné les artères de Bobo-Dioulasso mardi et mercredi pour exprimer leur ras-le-bol de la situation sécuritaire délétère dans plusieurs régions du pays. Ces manifestations interviennent au lendemain de l'attaque du détachement militaire d'Inata dans la zone des trois frontières et qui a fait 53 morts, dont 49 gendarmes. Reportage à Bobo-Dioulasso d'Alidou Ouedraogo.
Libérer Kossiam, trop c'est trop, gouvernement incapable ou encore soutien aux forces de défense et de sécurité sont autant de slogans qu'on entendait ou lisait sur des pancartes. Des manifestants motorisés qui fermaient magasins, marchés, stations, services et écoles pour appeler tout le monde à se joindre à leur mouvement qu'ils ont baptisé la libération du Burkina des mains du président Kabore. Écoutons quelques-uns.
Sincèrement, l'affaire, il faut que nous-mêmes, nous la population, il faut qu'on se lève, on est toujours assis, on ne fait rien. Bon, c'est pour cela. Donc si on ne se met pas au sérieux, alors le Burkina Faso, ça sera, ce ne sera pas facile.
Le président ne fait rien. Il a toujours les bras baissés, c'est pas normal.
Indigné comme la plupart des populations du Burkina. Donc on est sorti effectivement pour exprimer notre indignation face à l'inertie effectivement du pouvoir, leur incompétence effectivement à gérer la situation. À mon avis, les populations doivent prendre leurs responsabilités.
La coalition des patriotes africains du Burkina Faso qui a pris part à la manifestation ne se reconnaît pas dans ses appels à la démission du président. Elle l'a fait savoir mercredi soir en conférence de presse. Son coordinateur, Mohamed Zouré.
La COPA-BF ne se reconnaît pas à travers ces jeunes-là. Puisque la COPA-BF a toujours réprimandé le vandalisme dans tous ses sens. Donc la COPA-BF ne se reconnaît pas dans ce qui se passe actuellement avec les jeunes qui se circulent à moto, qui partent faire sortir les élèves dans les classes. La COPA-BF ne se reconnaît pas dedans.
Le mouvement de rejet du franc CFA qui était également dans la rue craint fort une récupération politique et prévient. Habib Ouattara, la quarantaine dépassée avec ses lunettes claires, réagit.
Avec une crise qui commence à énerver, qui commence à susciter beaucoup de questionnements au sein de nos populations, que les hommes politiques ou des hommes de mauvaises intentions en profitent pour passer des mots d'ordre à leur avantage. Donc c'est aussi pour ça que la COPA se désolidarise donc des propos qui peuvent aller à l'encontre de la paix au Burkina Faso.
Les manifestants promettent de revenir dans la rue le 27 novembre si la situation sécuritaire ne change pas. Des Bobo Dioulasso, Alidou Ouédraogo pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Ici aux États-Unis, plus de 50 ans après l'assassinat à New York de Malcolm X, figure de la lutte pour la cause noire, le procureur de Manhattan veut innocenter deux des trois hommes condamnés pour le meurtre. Un rebondissement judiciaire majeur qui ravive une cicatrice de l'histoire américaine. Pour en savoir plus sur Malcolm X et l'impact de ce procès sur la société américaine d'aujourd'hui, Mohamed Oumfa a joint Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattan College à New York.
Malcolm X était un petit délinquant qui s'est retrouvé en prison, très jeune. Et en prison, il a rencontré le Nation of Islam, donc des adhérents d'une religion révélée dans les années 20-30 autour de l'Elijah Muhammad. Et finalement, il s'est converti à cette nouvelle religion. Et lorsqu'il est sorti de prison, il est devenu le porte-parole, il est devenu le mobilisateur des foules, le propagandiste. Et donc c'est quelqu'un qui avait un charisme extraordinaire, les gens l'écoutaient quand il parle. Vers la fin de sa vie, il était devenu l'icône de la Nation of Islam et d'une grande partie de la communauté noire d'une manière générale.
Alors il a été tué en 1965, mais plus de 50 ans plus tard, le procès sur son assassinat n'est pas vidé. Qu'est-ce qui explique la complexité de cette affaire?
La complexité, c'est d'abord qu'il s'était fait beaucoup d'ennemis. Il avait quitté la Nation of Islam pour devenir un musulman orthodoxe sunni. Il avait même fait le pèlerinage à la Mecque et à l'époque avait même parcouru l'Afrique de l'Ouest, le Ghana, le Sénégal. Donc il était quelqu'un qui était devenu Main Street Islam, donc l'islam reconnu et un peu visible maintenant, et non plus la secte des Nation of Islam. Et pour cela, les adhérents de ce groupe le considéraient comme un traître. Et en particulier, il avait commencé aussi à sortir les secrets financiers, les perpétuités financières et sexuelles des leaders des Nations de l'Islam et en particulier de son leader principal, Elijah Muhammad. Donc, il avait des ennemis solides de ce côté-là par des gens qui le considéraient comme un traître. Et de l'autre côté, il y avait le FBI et la police américaine d'une manière générale qui le soupçonnaient d'être une sorte de cheval de Troie du communisme, qui le soupçonnaient d'être un radical qui allait enflammer en particulier les ghettos, parce qu'il s'était établi à Harlem et était devenu certainement le personnage le plus important d'Harlem, qui en même temps était aussi la communauté noire la plus influente aux États-Unis. Donc de ce point de vue-là, beaucoup de gens pensaient que la police américaine, plus ou moins, avait intérêt à le faire disparaître.
Quel est l'écho et quel impact cette affaire peut avoir dans la société américaine d'aujourd'hui?
C'est la police qui va sortir très, très ternie de cette affaire. Il y a d'abord ce débat sur la violence ouverte ou cachée, sournoise, organisée par les autorités, en particulier ici la police, le FBI, etc. Et d'autre part, le débat pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un complot à des échelons très élevés dans ce pays pour faire en sorte que l'islam soit mal représenté, soit vilipendié, qu'il y ait des efforts pour faire en sorte que cet islam ne fasse des progrès dans ce pays et n'apparaisse pas comme étant crédible et comme offrant une alternative au discours des dirigeants de l'administration Kennedy Johnson de l'époque.
C'était Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattan College à New York. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph et Georges-Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de